C'est la pause déjeuner. Mathis vient d'arriver. Il est prêt pour jouer. C'est ludique, 100% jeu de société.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique, votre émission quotidienne sur les jeux de société, la seule à la radio. Tous les jours, je vous présente dans votre pause déjeuner un jeu qui fait l'actualité. Je vous dirai comment on y joue et quel style de jeu c'est et ce que j'en pense. Et puis aujourd'hui, direction la brigade du jeu avec mon premier invité, c'est Johan Collet. Eh bien, C'est Ludique, ça commence tout de suite.
C'est la pause déjeuner, Matt pour t'inviter à jouer.
Et au menu aujourd'hui, c'est Dragon des Mers, un jeu de Simone Luciani, Pini Shaker, Yaniv Kahana, illustré par Weberson Santiago et édité par Gigamic à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs. Alors chaque joueur aura sa famille de dragons et devra au mieux protéger la mer. Vous pourrez notamment couler les navires ou collecter les trésors qui sont cachés au milieu de l'océan. Le but de chaque joueur est d'atteindre la plus grande présence dans chacun des 4 royaumes à la fin de la partie et de tirer le meilleur parti des points de victoire en accomplissant des quêtes ou en collectant des trésors. Au niveau de la mise en place, vous allez assembler le plateau, ces 4 pièces de puzzle qui représentent les 4 royaumes plus le centre. On posera dessus les jetons bateaux pirates au hasard sur les emplacements indiqués. Chaque joueur va récupérer ses corps et têtes de dragon à sa couleur. La quantité change selon le nombre de joueurs. On prend aussi 4 pièces d'or et 2 cartes dragon. On mélange les cartes mission, on forme une rivière. On mélange les cartes corail et dragon. Parmi les cartes dragon, il y a des petits, des moyens et des grands. Voilà, eh bien, nous sommes prêts à jouer. Mais alors, comment on joue? Eh bien, à votre tour, vous allez devoir jouer une des 2 cartes dragon que vous avez en main. Sur une carte dragon, vous avez des formes de dragon qu'il va falloir représenter sur le plateau grâce à une tête et des parties de corps. Un peu comme si c'était des polyominos. Les dragons peuvent être placés à côté de l'île ou adjacent à un autre dragon, mais attention, pas au vôtre. Certains espaces sont des maelstroms ou des courants marins. Si vous posez un corps ou une tête dessus, vous devez payer. En revanche, si vous recouvrez une pièce d'or, eh bien vous prenez une pièce d'or, et idem pour les cartes corail. Vous prenez une carte corail, vous gagnez des pièces d'or pour chaque dragon adjacent au vôtre. Lors de la pause, eh bien vous pouvez aussi récupérer les jetons pirates afin d'accomplir des missions. Justement, c'est la deuxième phase du jeu, la mission. Quand vous en complétez une, vous devez défausser les jetons des bateaux pirates correspondants. Ça vous rapporte des points en fin de partie. Ensuite, vous piochez une des cartes dragon. Si vous ne pouvez pas ou vous ne souhaitez pas jouer, dans ce cas, vous devez défausser une tête. En compensation, vous avez 2 pièces d'or. À la fin de la partie, en plus des différents points de victoire obtenus, on regarde les majorités dans chaque royaume. Le joueur qui a le plus de dragons remporte 3 points par maelstrom encore visible. Alors, ce que j'en pense de Dragon des Mers, faut jouer déjà astucieusement vos cartes de forme afin de récupérer un maximum de majorité dans les 4 royaumes. Mais ne pas oublier de remplir des missions et ne négligez pas non plus les cartes corail. Passer n'est pas une bonne idée car vous perdez une tête de dragon. Il faut donc bien réfléchir pour essayer de placer au mieux vos dragons avant de les poser sur le plateau. Parfois, il faut prendre des plus petites formes. Pas mal de dilemmes et de stratégies à mettre en place dans Dragon des Mers. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver mon invité. Et mon invité, eh bien, c'est Johan Collet de la Brigade des Jeux. Et notre invité aujourd'hui dans C'est Ludique, c'est Johan Collet de la Brigade des Jeux. Bonjour Johan.
Bonjour Mathieu, comment ça va?
Ça va bien et toi?
Très bien.
Alors merci d'être dans C'est Ludique ce midi pour nous présenter la Brigade des Jeux. Alors c'est quoi en quelques mots la Brigade des Jeux?
La Brigade du Jeu, c'est une immense brigade de une, donc moi du coup.
D'accord.
Et du coup voilà, et donc je fais des activités autour du jeu, donc au début c'était beaucoup de jeux en bois géant.
Ouais.
Et depuis 2019, des salles escape game itinérants qui promènent un peu partout.
Alors est-ce que tu peux nous donner des idées, parce que qu'est-ce qui t'a donné envie de créer des escape games? Est-ce que t'étais fan de ça? T'en as fait combien avant?
Alors fan, je sais pas combien j'ai fait de salles jusqu'à présent, mais j'ai dû je pense en faire une quarantaine, je pense.
D'accord.
Et à la base, vraiment, la première chose, j'étais frustré parce que j'avais des enfants qui avaient entre 6 et 9 ans.
Ouais.
Et en fait, je pouvais pas les faire avec eux. parce que souvent, en fait, on me disait que c'était à partir de 14 ans.
Ouais, bah oui.
Voilà. Et voilà. Et je trouvais ça un petit peu dommage. Et puis le fait de faire du jeu itinérant, bah, souvent, je croisais des barnums marqués Escape. Et en rentrant, bah, j'étais un peu triste parce que souvent, c'était des éléments posés sur une table.
Ouais.
C'était souvent un coffre à ouvrir.
C'est ça.
Voilà. Et je me suis dit, bah, il y a forcément moyen de créer un truc immersif. Avec une vraie ambiance, un vrai truc, et accessible aux plus jeunes aussi. Voilà, c'est parti un peu comme ça.
Combien de temps ça te prend pour créer une escape ?
Mes projets, à chaque fois, ils me prennent une année.
Ah ouais.
Une salle, c'est à peu près un an de travail. Entre les premières idées et la sortie, ouais, c'est ça, à peu près un an.
Du coup, il faut faire aussi attention au niveau de difficulté, je suppose ?
Ouais, c'est ça. À chaque fois, j'essaye de créer des salles qui sont accessibles à tout le monde, qui n'ont pas besoin de la moindre culture générale avant.
Ouais.
L'idée, c'est vraiment, ok, est-ce que des personnes qui ne connaissent rien au thème, elles peuvent comprendre ce qu'il faut faire. J'évite aussi les éléments écrits. Je préfère passer sous forme de symboles, mm-hmm. sous forme orale aussi. Voilà. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. C'est vraiment que ça reste accessible, mais c'est pas facile pour autant. Voilà, c'est vraiment essayer de faire un grand écart entre les deux.
Et du coup, tu vas faire des tests, je suppose, avec des enfants, avec des adultes, pour voir comment ça se passe.
Ouais, lorsque je fais mes salles, lorsque la salle elle tourne bien, je vais faire appel souvent. Il y a des enfants qui ont entre 8 et 10 ans.
Mmh.
Et voilà, et je les regarde faire, donc sans donner le moindre indice à la base. Et je vois si en fait ils comprennent tout, s'ils arrivent à trouver, à comprendre un petit peu les choses que je voulais donner. Et si ça marche, et ben c'est parti. Voilà. Et des fois, ben on pense que ça marche bien, parce que du coup, avec les enfants, ça marche. Et lorsqu'on fait jouer des groupes adultes, on peut être surpris.
Ah oui.
Des fois, et oui, parce que souvent les adultes, ils pensent plus loin, ils pensent trop loin.
Ouais.
Voilà. Et ils se perdent dans pas mal de petites choses. Voilà. Mais oui, souvent, oui, je pense aux enfants en premier lieu. Et pareil, aux personnes PMR aussi. En fait, voilà, essayer de tout laisser accessible, de laisser une place aussi. Voilà. Donc, essayer de penser au maximum, bah, au plus large public, en fait, hein.
Ouais.
Voilà. Laisser ça accessible. Ouais. C'est ça.
Les épreuves sont aussi très variées, hein. C'est jamais la même chose quand on fait pendant 30 minutes, on va jamais faire la même chose.
C'est ce que j'essaye. Bah, pareil. Alors, ça, je me mets en tant que joueur. J'aime bien varier au maximum. Et j'aime pas passer un quart d'heure sur la même énigme. Donc j'aime bien qu'il y ait un maximum de choses aussi. Donc avoir de la manipulation, avoir des énigmes, avoir un petit peu de fouille aussi, parce que c'est quand même chouette.
Mmh.
Voilà, donc essayer vraiment de varier au maximum et de faire un panel de ce qu'on peut faire en fait dans une grande salle, mais de manière extrêmement condensée et rythmée.
C'est ça. Ouais. Et alors du coup aussi tu vas certains escape games, il n'y a pas d'aide, là il y a quand même une aide, c'est-à-dire il y a une voix qui t'aide à suivre les étapes.
Oui, c'est un peu ça. En fait, dans la plupart des salles que j'ai fait, ce que j'aimais pas trop à chaque fois, c'est que souvent c'est la personne qui t'encaisse avant de commencer à jouer, qui te parle ensuite à travers un talkie-walkie.
C'est ça, ouais.
Et donc on part à travers le temps, mais c'est la personne qui nous a encaissé qui nous parle, et elle sait où sont les clés, elle sait où sont les énigmes. Enfin, ça a pas de sens en fait. Pourquoi est-ce que la personne est au courant de ça? Voilà. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour renforcer le côté immersif au maximum. Et du coup, bah, je fais appel donc à des comédiens. Et du coup, ce sont des voix que je capte avant.
Ah ouais, d'accord.
Et du coup, qui permettent en fait de pouvoir communiquer avec les joueurs qui sont à l'intérieur, mais les personnes qui jouent, elles communiquent avec un personnage qui est intégré à leur aventure. Dans ma dernière salle, donc c'est les Lauriers de César, donc une salle romaine.
Ouais.
Bah, on parle à Vénus. Voilà, ce qui est assez cohérent du coup.
Mmh.
Voilà, et on parle à Vénus. Dans d'autres salles, je sais pas, j'ai la salle sur les pirates. On parle au perroquet, donc au compagnon.
D'accord.
Qui nous parle et qui nous répond. Et donc, si ces personnes-là, ils connaissent des éléments de réponse, c'est normal parce qu'en fait, ils vivent ici, ils sont là, ou en tout cas, c'est qu'ils ont un lien étroit avec notre aventure.
Ouais.
Voilà, donc ça paraît un petit peu plus juste, ouais.
Alors moi, j'ai testé donc les Lauriers de César. Tu fais attention à tous les détails, hein. C'est important, toutes les références aussi historiques.
Alors sur la salle des Lauriers de César, oui, particulièrement en fait, à chaque fois j'essaye de faire un univers fort, en fait vraiment l'idée, parce qu'en fait la salle, donc on l'a pas dit, mais c'est minuscule. C'est en fait un barnum qui mesure 3 mètres par 3 mètres, donc c'est très petit, mais ce qui me permet aussi de pouvoir rentrer en tout lieu, notamment là. Donc lorsqu'on s'est vu, je me suis installé dans un simple appartement.
Ouais.
c'était mini, donc ouais. Et du coup l'idée première, c'est de faire en sorte que les gens qui viennent jouer oublient qui sont dans, en fait, une toile de tente.
Ouais.
C'est la première chose à faire. Donc ouais, donc l'idée, c'est avoir donc un ensemble d'éléments de décor forts qui coupent ça. Et sur la salle romaine, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu être aidé de nombreux médiateurs, médiatrices de musées,
d'accord,
spécialistes de la romanité, qui m'ont beaucoup aidé et conseillé sur les éléments de déco et autres. Voilà, et donc notamment, ben, voilà, dans la salle romaine, j'ai pu avoir des bustes, dont un buste qui est une repro totale du buste de César trouvé au fond du Rhône sur Arles il y a quelques années.
D'accord.
Voilà, donc ouais. Essayer vraiment de faire ça, ouais. Ouais,
tu trouves tes objets un petit peu partout, du coup, comment ça...
Bah en premier, je les sors de ma tête.
D'accord, ok.
Premier truc, pour la salle romaine, c'était bon. Alors, qu'est-ce que moi je vois en pensant à une tente romaine? Qu'est-ce que je vois?
Ouais.
Alors, c'est pas du tout historique ça, hein, mais c'est la première idée. C'est ok, donc une tente romaine, qu'est-ce que c'est? Bah moi, je vois des colonnes, je vois un fauteuil en velours rouge, je vois des boucliers, je vois des armes, voilà. Et après, bah, lorsqu'on a ça, bah, qu'est-ce qui est historiquement juste? Et ensuite, ben, où est-ce qu'on va trouver tout ça? Et c'est là que les problèmes commencent souvent. mais ouais, donc du coup, oui, vraiment après, farfouille, hein. On cherche un peu partout. Hein.
Ouais, c'est toi qui crée tous les mécanismes, toutes ces choses-là?
Oui, tous les mécanismes, en tout cas, je vais les créer au fond de ma tête. Et ensuite, ben, ce que j'arrive à faire moi, je le fais moi. Et lorsque j'y arrive pas, parce que j'ai pas les compétences pour, ben, du coup, je vais vraiment essayer de trouver. Voilà, donc un des mécanismes que tu as pu faire, donc je pourrais pas dire lequel, mais mécanismes, j'ai trouvé quelqu'un qui habite en Floride.
D'accord.
Et en parlant sur en fait des sortes de forums de spécialistes escape et tout, bah, j'ai eu un contact et cette personne, elle m'a fait ça. Donc ouais, ouais, ça peut venir de super loin. Les bustes ont été faits à Limoges, les bustes romains qui sont à l'intérieur, j'ai trouvé un fou d'impression 3D, enfin incroyable, qui m'a donc fait les bustes en 3D. À Limoges.
D'accord.
Voilà,
c'est,
ok. Voilà, c'est extrêmement vaste à chaque fois. Ouais.
Et en plus, c'est très réaliste parce que c'est vrai qu'on dit des fois il y a des escape games, bon, tu les fais, tu dis bon bah voilà, il y a un coffre posé, machin et tout.
Ouais.
Des écritures sur un mur, à recopier. Enfin bon, bref. on se sent vraiment au milieu de la Rome antique, quoi. Hein.
Ah bah c'est chouette. Bah ouais, c'était vraiment l'idée parce que oui, j'aime pas trop les trucs anachroniques aussi. C'est clairement des choses qui me sortent du jeu aussi, trouver donc un, ne serait-ce qu'en fait un gros timer visible alors qu'on est à travers le temps, ça n'a aucun sens. Donc ouais, je vais à chaque fois essayer d'avoir des objets jolis qu'on prenne plaisir à les prendre en main et qu'ils fassent crédibles. Bah oui, c'est sûr.
Et
essayer, ouais.
Et à chaque fois donc l'escape c'est 30 minutes, pas une de plus.
Ouais, c'est en fait un format que j'aime bien parce qu'en fait je vois que bon déjà ça me permet en fait que donc moi je travaille uniquement ou presque avec les collectivités.
D'accord.
Et du coup l'idée c'est d'avoir un maximum de gens qui puissent jouer. Donc si en fait on dépasse ça en temps, on passe assez peu de groupes. Le fait d'avoir un format de 30 minutes, on va pouvoir accueillir un paquet de gens aussi. Et aussi je vois que finalement pour en fait la plupart des familles qui découvrent ça, 30 minutes c'est bien parce qu'en fait si on n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas le temps de se lasser aussi. Les enfants, ils restent aussi captifs.
Oui.
Et c'est parti, quoi. Ouais. Voilà, donc 30 minutes, ouais, je trouve que c'est un format chouette, adapté en tout cas au plus grand nombre. Ouais.
C'est vraiment un format intergénérationnel, un format familial.
Ouais. Ouais.
Et alors, du coup, aussi, quand les personnes n'y arrivent pas, malgré l'aide de Vénus, là, pour voir, à la fin, comment ça se passe? Tu vas leur expliquer?
Alors moi j'ai en fait une démarche alors qui est peut-être pas une démarche que tout le monde fait mais en tout cas moi c'est vraiment une mission d'amener tout le monde au bout.
Ah oui d'accord.
Toujours.
Ok.
Voilà parce que pareil en tant que joueur aussi lorsqu'en fait on rate une salle à 3 minutes de la fin ça a pas de sens en fait. Ça a pas trop de sens parce que on ne va jamais refaire cette salle après.
Mais oui.
Donc donc je préfère amener l'ensemble du groupe au bout. Souvent c'est qu'ils ont compris qu'ils sont donc allés au-delà du fameux temps.
D'accord.
Que la partie est perdue en fait, mais au moins c'est qu'ils arrivent au bout et c'est très important, notamment pour les familles avec enfants, de pouvoir aller au bout du jeu. Ouais. Voilà. Donc à chaque fois, je mène tout le monde au bout et si vraiment les groupes ne comprennent pas malgré les indices, qui est extrêmement rare, je rentre avec eux en restant dans mon personnage, donc romain ou autre, et je vais faire membre avec eux. Enfin voilà, je vais faire partie de l'équipe. Quelques minutes pour atteindre la fin du jeu.
L'avantage, on le dit, c'est un escape mobile, donc qui se déplace, tu vas partout, tu vas dans toute la France.
Ah ouais, en fait, partout, ouais. Là, la salle, elle va pas mal bouger, du coup, là, dans les prochains mois, donc essentiellement dans le sud de la France pour le moment.
D'accord.
Mais en tout cas, elle va partir sur un site gallo-romain pendant les vacances d'octobre prochaine, donc sur le site de Glanum. Donc, l'équipe est venue jouer, elle a vu le côté historiquement juste. C'est ça qui m'a beaucoup plu.
Ouais, d'accord.
Voilà, et donc ils étaient plongés dedans, donc elle va partir là-bas. Elle va partir sur le festival Ludim aussi, qui se passera, je crois, le 5-6 novembre à Nîmes. Du coup, elle partira là-bas. Et elle est programmée au musée de l'Art Lantique, donc un super musée géré par le département des Bouches-du-Rhône, sur Arles, en février prochain.
Okay.
Donc ouais, la salle commence à vivre et elle commence à être vue, repérée. Et ouais, elle commence à tourner pas mal, ouais.
Bah, va falloir venir un petit peu en Bretagne.
Eh bah, ben, j'espère bien. Bah oui, j'ai pu venir en plus en vacances et c'est un lieu qui me plaît beaucoup.
J'ai vu aussi que tu proposais une escape box. Alors, ouais. C'est quoi le principe?
Alors l'escape box, bah, alors c'était en fait une idée. C'était bah, souvent les gens qui viennent jouer mes salles, ils me disent est-ce que c'est possible de venir chez nous avec?
Ah oui.
Et le problème, c'est que bah, ma salle est petite certes, mais elle fait quand même 3 mètres par 3 mètres,
ouais.
Et dans les appartements, ça peut pas rentrer.
Ouais.
Voilà, voilà. Et donc cette box, c'était ok. C'était qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de créer une malle qui soit la plus incroyable possible aussi. Et du coup, donc cette escape box, en fait, c'est en fait une malle escape game qui est automatisée entièrement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadenas physique.
D'accord.
C'est automatisé. C'est en fait une malle qui parle aux joueurs, qui interagit avec eux,
okay.
Qui donne elle-même des indices et le tout de manière totalement autonome. Donc moi, j'ai pas besoin d'être là, en fait.
Ah oui, d'accord. Donc tu envoies la box, alors.
Ouais, elle est livrée, je la pose, et lorsque les gens ils souhaitent y jouer, c'est qu'ils la mettent en marche et c'est parti. Elle va leur parler et c'est parti. Et donc il se passe un paquet de trucs. Elle est dans un thème de magie. Et on va devoir essayer de comprendre des sorts, lancer des sorts, activer des choses sans aucune clé, ni aucun truc visible. C'est très déroutant, en fait, à jouer. Et ça plaît beaucoup, beaucoup, ouais.
Eh ben super. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Johan, d'avoir été ce midi dans C'est Ludique. Et puis, à très bientôt. Hein. J'ai hâte de refaire une autre salle.
Ben, carrément, carrément. Merci beaucoup.
À bientôt. Salut, à Johan. Bientôt.